Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à tous à l'écoute de votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Merci de rester fidèles au rendez-vous de Mélomanie. Gros coup de froid en ce début d'avril, où l'hiver a fait un retour un peu inattendu. Il a fallu ressortir les gros pulls, les manteaux et les doudounes. Pas de quoi décourager cependant les amoureux et les passionnés de musique classique qui ont bravé le vent du Nord pour aller assister aux nombreux concerts programmés ces derniers jours. Ils ont bien fait parce qu'il y avait d'excellents musiciens et de très beaux programmes à entendre à Toulouse et à ses alentours. Ça va continuer cette semaine, donc soyez attentifs tout au long de cette émission où je retrouve Robert Pénavert, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, également chroniqueur pour les sites Culture 31 et Actu Toulouse, ainsi que pour les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi. À ses côtés, non pas Serge Chosy, qui se remet doucement de sa Covid, mais Serge Krichevski, oboïste de l'Orchestre National du Capitole, chef de l'Orchestre en Harmonie, président du Festival Musique au Palais et membre des Clés de Saint-Pierre, deux érudits pour animer cette émission avec moi. Tout de suite, retour sur l'actualité musicale récente, retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Et parmi les bons moments de la semaine passée, il y a eu l'avant-dernier concert de la saison des Clés de Saint-Pierre, justement, lundi 28 mars à Saint-Pierre-des-Cuisines, avec un programme intitulé « Promenade Scandinave », interprété par le quintet Promenade, ça ne s'invente pas. Une formation composée de la flûtiste Joséphine Poncelin de Raucourt, de la bassoniste Mylène Poulard, de la clarinettiste Floriane Tardy, de l'oboïste Shiwen Cheng et du corniste Benoît Huy. Si vous avez bien suivi, vous avez constaté qu'il s'agissait d'un quintet d'instruments à vent formé de musiciens de l'Orchestre National du Capitole ou d'anciens musiciens de l'Orchestre du Capitole puisque Joséphine Poncelin a rejoint récemment les rangs de l'Orchestre National de France. Il faut préciser que ces cinq musiciens s'étaient regroupés il y a quelques années pour participer à un concours à Copenhague où ils avaient présenté un programme de compositeurs scandinaves, ce qui n'étonnera personne. De là est née l'idée de donner cette promenade en Europe du Nord pendant la saison des Clés de Saint-Pierre. Ce concert aurait dû avoir lieu il y a 2 ans, mais il a été reporté, comme beaucoup d'autres, en raison de la crise sanitaire. Il y avait 4 œuvres de 4 compositeurs différents au programme. Le quintet avant du Danois Otto Mortensen, le quintet avant numéro 1 du Finlandais Kalevi Aho, les danses norvégiennes du Norvégien Edvard Grieg, dans un arrangement pour quintet avant de David Walter, et enfin le quintet avant opus 43 d'un autre Danois, Carl Nielsen. 4 étapes donc lors de ce voyage dans la Scandinavie musicale, une musique scandinave souvent très pastorale, inspirée par la nature, les sentiments, les émotions qu'elle procure. Il est vrai que les paysages du Danemark, de Finlande ou de Norvège sont très inspirants de ce point de vue, aussi bien pour les compositeurs romantiques ou post-romantiques comme Grieg, Nielsen et un peu Mortensen, ou pour les contemporains comme Kalevi Aho, avec leur style et leur spécificité propre bien sûr. Alors moi, personnellement, j'ai passé une très bonne soirée à écouter leurs œuvres jouées par ces 5 excellents musiciens qui aiment manifestement beaucoup cette musique et prennent plaisir à la jouer. Il y a eu notamment de nombreux dialogues entre les instruments qui se répondent les uns aux autres. Le quintet d'Otto Mortensen a été une très belle découverte, de même que les danses norvégiennes de Grieg, écrites à la base pour le piano, que je ne connaissais pas dans l'arrangement pour quintet avant de David Walter. J'avoue en revanche que la musique et le quintet de Nielsen m'ont moins touché que les autres pièces que j'ai entendues ce soir-là. Serge Krichevski, je sais que vous aimez les compositeurs scandinaves, Sibelius entre autres, et que vous connaissez bien aussi en tant qu'oboïste les œuvres qui ont été jouées à Saint-Pierre-des-Cuisines. Quelles sont celles que vous appréciez tout particulièrement parmi les 4 interprétées par vos camarades de l'Orchestre du Capitole ?
Bah écoutez, moi j'ai surtout interprété donc les danses de Grieg, hein, qui ont été jouées quelques fois dans la saison depuis 20 ans là au Clé de Saint-Pierre. Mais je n'ai pas joué les autres œuvres. Bon, ce sont aussi des découvertes. Hein. Le quintet de Nielsen est un petit peu plus connu parce qu'il est souvent donné en concert. Il y a même un quintet avant français qui a porté ce nom, qui s'appelait le quintet Nielsen pendant quelques années. Par contre, il y a eu des pièces. Peut-être la pièce de Kalevi Aho était une pièce imposée pour le concours de Copenhague. Ça fait partie effectivement des œuvres qui sont écrites peut-être même parfois pour des concours hein, aussi. Mais bon, l'impression que j'ai de ce concert, c'est que les pièces étaient très, très intéressantes. Voilà, il y avait beaucoup de diversité aussi.
Alors, je parlais de votre goût pour la musique scandinave. Je sais que vous êtes très attaché à Sibelius, par exemple.
Oui, effectivement. C'est un compositeur qui a des registres qu'on ne connaît pas bien. Bon, il a écrit de la musique de chambre aussi. Ça fait aussi partie de ces compositeurs dont on joue un petit peu tout le temps les mêmes œuvres. Évidemment, il y en a trois en particulier, la symphonie 2 et 5 et le concerto, magnifique concerto pour violon, plus quelques poèmes symphoniques. Il a écrit beaucoup de poèmes symphoniques. Bon, on joue souvent Finlandia, qui est un poème assez court. Et puis, le magnifique Tapiola, qui est sa dernière œuvre écrite avant qu'il s'arrête de composer très jeune.
Est-ce que vous ne trouvez pas que ces compositeurs scandinaves sont souvent méconnus assez injustement et très peu joués? Est-ce qu'il y a une raison, selon vous, à ça?
Alors, il y a beaucoup de compositeurs qui sont très peu joués, voire complètement qui restent dans les tiroirs. On en reparlera tout à l'heure avec le concert de l'Orchestre du Capitole et la période du tournant du siècle avec les femmes compositrices. Mais déjà, on a beaucoup de travail avec les compositeurs qui sont un tout petit peu connus, même Nielsen et Sibelius. Grieg aussi. Bon, mais Grieg, globalement, il est quand même un peu mieux servi que les autres. Mais... voilà, il y aura toujours. Et puis, nous sommes à une époque aussi où la curiosité n'est pas forcément la valeur primordiale, hein, je dirais. On s'attache à réécouter des choses qu'on connaît déjà, peut-être pour se rassurer. Et puis, même, par exemple, l'œuvre de Kalevi Aho, dont j'ai entendu de larges extraits, une œuvre qui a l'air très intéressante. Pourtant, c'est un compositeur peu interprété parce que, voilà, c'est un style qui effraie plus aussi.
Est-ce qu'ils ont une caractéristique propre, ces compositeurs scandinaves? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une couleur, des sonorités propres à...
C'est très difficile de généraliser parce que déjà, définir un style, la nationalité d'un style musical ou artistique, c'est déjà très difficile. Bon... Il y a des tendances, il y a des courants, mais souvent on est obligé de rentrer vraiment dans des questions techniques pour pouvoir en parler. Par exemple, pour le concert justement des femmes compositrices, on verra qu'il y a des liens forts avec la musique de Debussy, de Fauré, etc. Là, la musique scandinave était en train de se construire. Des gens comme Grieg, Sibelius ont vraiment, et Nielsen aussi pour les Danois, ont fait partie des fondateurs de la musique scandinave, qui ont été après ça copiés, suivis, prolongés. Mais voilà, avant eux, il n'y avait pas grand-chose comme musique nationale.
Oui, c'est relativement récent à l'échelle de l'histoire de la musique dite classique, en tout cas savante. Alors, pour nous replonger dans ce petit monde de la musique scandinave, nous allons écouter un extrait du quintet avant d'Otto Mortensen, le premier mouvement Allegro ma non troppo. Thank you. Quand je parlais d'ambiance pastorale, c'était le premier mouvement Allegro ma non troppo du quintet à vent d'Otto Mortensen, une des quatre pièces du récent concert des Clés de Saint-Pierre. Le prochain et dernier de la saison a lieu lundi 8 mai à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines, cela va de soi, avec un programme entièrement dédié à Ludwig van Beethoven. Le lendemain du concert des Clés de Saint-Pierre, une autre célèbre saison toulousaine de musique de chambre présentait elle aussi son avant-dernier rendez-vous 2021-2022 à l'église Saint-Jérôme, où les Arts Renaissants avaient invité l'orchestre baroque de Venise et son chef et fondateur Andrea Marcon, qui accompagnait la violoniste Shushan Siranossian. C'est le baroque italien qui était à l'honneur à travers des œuvres de Vivaldi et Tartini. L'orchestre était également italien, mais la soliste était bien française, même si son nom ne l'indique pas forcément. Très belle soirée, Robert, où l'on a découvert une magnifique musicienne accompagnée par un orchestre dont on connaît la valeur depuis longtemps.
Effectivement, mais en plus, lorsque les Arts Renaissants invitent une pareille soliste et un pareil orchestre, évidemment, ce qu'on attend, c'est de la virtuosité, mais pas que. Et Vivaldi et Tartini, donc, qui étaient au programme, nous ont offert des moments absolument incroyables. Alors, Vivaldi, bon, tout le monde connaît ou à peu près son histoire. Mais par contre, ce que je voudrais ajouter, c'est qu'en fait, au-delà, il a été certainement l'un des compositeurs, voire peut-être le compositeur le plus important de l'époque baroque, bien évidemment. Mais il a également été un précurseur en matière musicale, puisqu'il a été l'initiateur, entre autres, mais peut-être l'initiateur le plus important du concerto pour soliste. C'est ça qui est important et d'ailleurs ce qui amène évidemment à la suite de notre commentaire là-dessus, puisque après deux concertos pour cordes, effectivement, il y avait deux concertos pour violon. C'était Shushan Siranossian, nous allons y revenir. Alors, deux concertos qui portent un nom. Les noms, bon, on n'est pas très très sûr qu'ils soient de Vivaldi.
Comme souvent, c'est plutôt été ajouté.
Voilà, c'est les éditeurs qui par la suite.
Les éditeurs, bon,
voilà, voilà, ou des interprètes.
Voire les interprètes eux-mêmes.
Voire les interprètes, voilà. Alors, le premier est issu de l'opus 11. Il est écrit en 1729. Vivaldi a alors 41 ans. C'est un musicien qui est largement installé dans son métier et dans sa popularité. Et il porte le nom d'Il Favorito, nom qui a été, comme je le disais précédemment, ajouté à la partition après l'écriture de l'œuvre. Alors, cette œuvre a été présentée par Vivaldi à l'empereur germanique Charles VI, et ce qui est important, en dehors de ces fêtes historiques avérées d'ailleurs, hein, c'est qu'il démontre, dès son premier mouvement en particulier, le talent du compositeur pour le drame musical, ce qui est assez étonnant à cette époque-là. Alors que l'andante, vous savez, ce sont des œuvres en trois parties, hein, et l'andante centrale offre par contre à l'auditeur toute une atmosphère extrêmement lyrique, mélancolique, mais extrêmement touchante. Et dans l'allegro final, bien évidemment, si vous l'avez en tête, vous savez qu'on ne peut qu'entendre l'écho de l'automne des quatre saisons qui sont peut-être l'œuvre musicale la plus célèbre de toute l'histoire de la musique.
C'est fort possible.
Je ne suis pas sûr, mais c'est pas très loin. Alors ensuite, il y avait un deuxième donc, concerto qui s'appelle Il Grosso Mogul, le Grand Mogol en définitive. Lui, il achevait le programme de la soirée. Alors ce titre, c'est un peu un clin d'œil au Grand Mogol, mais évidemment, mais aussi peut-être au je ne sais pas si vous le savez, mais il existait, j'imagine qu'il existe toujours, hein, un célèbre diamant qui, au XVIIIe siècle, il appartenait au Shah Jahan, celui-même qui a fait construire le Taj Mahal, et rien que ça. Donc, il avait les moyens d'avoir un pareil joyau en sa possession. Et alors, certains disent que c'est le titre de ce concerto fait écho, lui également, à la brillance, à l'éclat du joyau. Mais enfin, rien n'est avéré à la matière. Bien évidemment, la liaison entre les deux choses. Il n'empêche qu'il s'appelle les Grosso Mogul. Voilà. Alors, les deux allegros qui entourent le mouvement central de ce concerto sont des recueils de difficultés majeures, mais ce qu'il y a au milieu, le récitatif central, est étonnant d'émotion, d'une intensité à vous faire pleurer. Tout d'un coup, on passe dans un autre monde, parce que les deux mouvements qui l'encadrent sont des mouvements extrêmement virtuoses, et tout d'un coup, on est dans un autre monde, il y a de l'émotion, il se passe autre chose. Ça, c'était vraiment merveilleux. Et le dernier mouvement, d'ailleurs, quand je parle de virtuosité, il a tenu littéralement le public en apnée, de même que la soliste, puisque le dernier trait étant joué, elle a poussé un grand soupir qui a fait un peu sourire tout le monde, y compris les musiciens qui étaient avec elle, parce que c'est absolument prodigieux. Alors, En parlant, et pour terminer avec Vivaldi, il faut rappeler que quand même Bach avait une admiration sans borne pour ce compositeur, au point qu'il transcrivit pour clavier plusieurs de ses œuvres, et même il reconnaît dans ses écrits que plusieurs des œuvres de Vivaldi l'ont inspiré, ce qui quand même n'est pas rien d'avoir l'honneur d'avoir inspiré Bach.
D'autant plus qu'aujourd'hui, Vivaldi est considéré un peu comme un compositeur, peut-être pas mineur,
mais à côté de Bach. Et ça, c'est à cause de ces quatre saisons qu'on entend un peu partout, les grands magasins, les répondeurs au téléphone, voilà, avec des bandes de son complètement voilées. Bon. Mais non, c'est un grand compositeur, Vivaldi. Et puis, il n'a pas fait que des concertos pour violon. Il a fait des opéras absolument magnifiques. Voilà, c'est un très grand compositeur, un des jalons marquants dans l'histoire de la musique. Serge, qu'est-ce que tu en penses, toi ?
Oui, je ne pense pas autant que Igor Stravinsky qui disait qu'il avait écrit 600 fois le même concerto.
Oui.
Je n'irai pas jusque-là. Non, mais j'ai cru, Robert, que vous alliez parler de ses opéras, parce qu'il a écrit aussi beaucoup d'opéras.
On n'a pas le temps.
Au moins, juste faire allusion au fait qu'il a écrit pas seulement des concertos, de la musique de chant, des opéras, de la musique religieuse magnifique.
Mais tu sais, à propos de Stravinsky, moi, j'aurais toujours dans l'oreille ce qu'il disait au sujet de l'or du Rhin.
Ah ça, je ne savais pas.
Il disait que dans la Donna et Mobile, il y avait beaucoup plus d'inventions mélodiques que dans tout l'or du Rhin. Donc, je me méfie un peu de ce que raconte Stravinsky. Mais au cœur de cette soirée, il y avait Tartini.
Voilà.
Alors, Tartini, autant, il est avéré que Vivaldi est entré dans la prêtrise, bien sûr, au point même que sa chevelure...
Prêtre rouge
l'a fait dénommer le prêtre roux. Alors, les parents de Tartini voulaient qu'il soit prêtre, mais Tartini avait, je crois, un autre tempérament. D'ailleurs, je ne dirais pas que c'était le Caravage, mais enfin, il a eu une jeunesse très, très, très agitée, sentimentalement parlant, judiciairement parlant, etc. Bon, dans tous les cas, il n'est pas rentré dans les ordres et a bien fait d'être compositeur parce qu'il a énormément composé, par exemple, puisque, évidemment, nous allons revenir à ce programme et au cœur de ce programme des Arts Renaissants, il y avait deux concertos de Tartini. Alors, il faut dire qu'il est la même génération que Vivaldi, si ce n'est qu'il avait 14 ans de moins. On va dire que c'est la même génération. Et donc, il a composé pas moins de 130 concertos pour violon. Ce qui est quand même bon. Alors, je ne dis pas que c'est un staccanoviste de... En fait, c'est ce que voulait dire Stravinsky, c'est un peu ça.
C'est-à-dire que comme Vivaldi, c'était son instrument, tout simplement.
Ces deux, Vivaldi et Tartini, étaient d'immenses virtuoses.
Les virtuoses du
violon. Mais je crois que Tartini, en définitive, en termes de difficulté, proposait à l'instrumentiste, au violoniste, est allé encore plus loin, puisque au-delà de ses 130 concertos pour violon, il a écrit une sonate fameuse intitulée « Les Trilles du Diable », et je pense que l'appellation se passe de tout commentaire. Alors maintenant, quand même, il faut parler des interprètes. Alors, l'orchestre, vous l'avez dit, il fait référence en matière de musique baroque. Là, il n'y a absolument rien.
L'église depuis 25 ans, c'était André Marcon qui l'avait fondée. Il est resté à la direction et au clavecin.
Au clavecin. Puisqu'il fait les deux,
absolument.
Il dirige en fait depuis le clavecin. Et donc, venons-en à cette violoniste d'origine arménienne. Elle est considérée comme la plus grande virtuose sur la scène internationale. Mais, en définitive, ça a l'air immense de dire ça. Et puis, en fait, c'est un peu réducteur. Parce qu'en fait, quand on l'entend, comme on l'a entendu lors de ce dernier concert des Arts Renaissants, on s'aperçoit qu'il y a autre chose. Et en particulier, dans ces fameux mouvements centraux, c'est là où l'on sent l'âme de la violoniste, de l'instrumentiste. Et là, je peux vous dire que vraiment, ce supplément d'âme, ce fameux supplément d'âme, qu'il n'est pas inutile d'évoquer aujourd'hui au sujet de son interprétation, eh bien là, tout le monde l'a ressenti, vraiment, tout le monde l'a ressenti. Et en particulier, il y a eu un moment absolument magique, je pense, Eric, vous y étiez, et vous avez dû le percevoir comme ça, c'est lors d'un de ces mouvements centraux, elle était accompagnée par le théorbe. Et alors, le théorbiste qui était là, un jeune théorbiste, a priori, qui s'appelle Ignacio Laguna Navarro, vraisemblablement espagnol, il nous a fait une démonstration absolument extraordinaire, entre les traits rageurs qu'il savait sortir de son instrument et la manière, la virtuosité, la douceur, la mélancolie avec laquelle il a accompagné le mouvement central de la soliste, a été un moment de grâce complet. Je pense que plus personne n'a respiré.
Mais il y a eu plusieurs comme ça pendant le concert, des moments où j'aime dire que le temps est un peu suspendu.
Oui, c'est ça. Mais c'est ça, Eric.
On ne sait plus où on est, voilà. Et il n'y a plus que la musique.
Voilà.
Et mais ça, c'est dans la musique.
C'est la magie des musiciens.
Ben oui.
Ils savent nous procurer ces moments-là.
Absolument.
Et rendons leur grâce de ça. En particulier, en ce moment, je n'ai pas besoin d'aller plus loin là-dessus. Voilà, écoutez, un grand concert,
ah oui,
follement applaudi.
Et c'était plein. Hein,
et l'église Saint-Jérôme était pleine. Et nous attendons avec impatience, donc, et alors non seulement le prochain concert, mais également la saison du 40e anniversaire de cette association des arts renaissants. On ne peut pas imaginer qu'ils ne vont pas nous proposer des choses encore plus magnifiques si tant est que c'est faisable.
Si importante, voilà. À Toulouse pour tous les amateurs de musique baroque et de musique de chambre. Alors, comme je le disais, il y a eu des moments où le temps s'est un peu arrêté, s'est suspendu lors de ce concert. Quand Shushan Cyranossian, par exemple, a joué avec beaucoup de délicatesse et d'émotion le deuxième mouvement Largo Andante du concerto en la majeur D96 de Giuseppe Tartini. Écoutez ça. Le deuxième mouvement Largo Andante du concerto en la majeur D96 de Giuseppe Tartini par Shushan Cyranossian, accompagné par l'Orchestre Baroque de Venise, un extrait de leur CD Tartini enregistré il y a 2 ans. Prochain et dernier concert de la saison des Arts Renaissants, mardi 19 avril à 20h, ce sera au Temple du Salin avec le quatuor Ellipsos, un quatuor de saxophone. Samedi dernier, le 2 avril, l'Orchestre National du Capitole était en concert à la Halle aux Grains pour un programme d'autant plus attendu qu'il n'était constitué que d'œuvres de compositrices, sous-titrées très opportunément « Femmes de légende », ce qui est d'ailleurs le titre d'une des pièces jouées ce soir-là, le triptyque symphonique de Melbonis. On a pu entendre également « Andromède », un poème symphonique d'Augusta Holmès, « Ossiane », un chant de douleur, une note symphonique de Marie-Jaël, et enfin « La sirène », une cantate inédite de Nadia Boulanger. À la direction, on a retrouvé le Britannique Léo Hussein, et puis il y avait 3 chanteurs, la soprano Anaïs Constant, la mezzo-soprano Aude Extremo et le ténor François Rougier. J'ai beaucoup aimé le triptyque de Melbonis, parce que bon, c'est une compositrice que j'apprécie de plus en plus pour ma part. J'ai beaucoup apprécié aussi de découvrir « La sirène », la cantate de Nadia Boulanger. Serge, vous étiez présent dans l'orchestre. Qu'est-ce que vous pensez de cette musique française au féminin ?
beaucoup de bien. Enfin, ces compositrices étaient en fait toutes les quatre des musiciennes accomplies, qui ont une profondeur de carrière très très grande. Évidemment, Nadia Boulanger, peut-être indépendamment de ce qu'elle a écrit, elle est connue comme directrice d'un conservatoire qui a formé des gens comme Aaron Copland, Leonard Bernstein, enfin voilà, grande carrière d'organiste, voilà, de pianiste. Augusta Holmès aussi était pianiste, Marie-Jaël, grande pianiste, élève de Liszt, autrice d'une méthode de piano. Donc voilà, des personnalités, des grandes personnalités qui ont effectivement eu un petit peu plus de mal que les hommes à se faire connaître à cette époque, mais qui baignaient vraiment complètement dans l'esprit. On parlait de l'esprit de la musique scandinave tout à l'heure. Il y a un esprit de musique française dans ce tournant entre 1890 et 1914 au moins. Et voilà, on a par exemple cette cantate La Sirène de Nadia Boulanger, écrite pour concourir au prix de Rome. Elle a 21 ans. Bon, c'est une musique qui est déjà très... très affirmé. Bon, il y a des connotations, il y a des références qu'on entend assez vite, mais en même temps, il y a beaucoup de choses très personnelles déjà. Voilà, il se trouve qu'après Nadia Boulanger, alors pour des raisons différentes, disons extérieures à la musique, s'arrêtera de composer très jeune, enfin à la mort de sa sœur Lily Boulanger.
Morte en 1918.
Hein. Voilà.
Très
donc,
jeune.
Donc elle aura une très grosse carrière, mais indépendamment de la composition.
De pédagogue essentiellement.
Voilà. Mais bon, les autres compositrices ont continué d'écrire et c'est très important. Je pense que le Palazzetto Bruzane est d'ailleurs un très gros programme de réédition, de réenregistrement de pièces de
compositrices. De musique française romantique.
De compositrices. Hein,
et de
un ensemble de 8
ouais.
CD avec la plupart des orchestres régionaux français.
Alors, on n'a pas parlé de Melbonis. Qu'est-ce que vous pensez de son triptyque symphonique? Il faut préciser qu'elle était la condisciple de Debussy au Conservatoire de Paris, repérée par César Franck, comme l'avait été Augusta Holmès.
Oui, alors César Franck, effectivement, on l'entend chez Augusta Holmès, Melbonis, on entend des touches comme ça. Mais après, bon, ce sont des compositrices qui n'ont pas eu à leur époque assez d'occasion de se faire jouer, d'entendre leurs œuvres jouer à l'orchestre, et donc éventuellement de modifier des choses. Mais ce sont déjà des œuvres écrites par des personnes au talent très sûr, déjà, enfin, au métier très sûr également. Enfin, il n'y a quasiment pas d'erreur d'écriture. Après, il y a des choix qu'elles font, harmoniques, etc. Mais ce sont des œuvres qui sont agréables, assez faciles à jouer. Hein. Elles ne posent aucun problème d'équilibre, enfin de
parce que c'est très bien orchestré. Un mot sur les solistes, les chanteurs, oui. Et Léo Hussein aussi, qui vous dirigeait pour la troisième fois, quelque chose comme ça, en tout cas vous connaissez
au moins
déjà,
alors hein. oui, alors il a fait également une opération avec le Palazzetto, avec la Princesse Jaune de Saint-Saëns, il y a avant le Covid, et malheureusement je crois qu'il y avait quelque chose qui devait avoir lieu en 2021 qui n'a pu se tenir, mais effectivement on l'a surtout connu à l'opéra dans La Ville Morte et Vodsec récemment. Bon, c'est un chef qui a beaucoup de qualités très très vastes et très solides aussi, voilà, qu'on aime bien globalement.
Je pose la question parce qu'on sait évidemment que la succession de Tugendhat-Sokiev est ouverte.
Ça, c'est autre chose. Oui. Non, mais compositeur qu'on aime beaucoup voir revenir.
Chef d'orchestre, pas
pardon.
Compositeur,
pardon.
Je ne crois pas qu'il compose,
pardon.
Mais peut-être d'ailleurs,
conducteur,
je n'en sais rien.
Non, je pense que...
Et donc les solistes, les trois chanteurs, j'ai été vraiment impressionné par Anaïs Constant dans ce registre.
Moi aussi, je dois dire, bon, alors peut-être, alors dans Océane, elle était en tout cas dans certains endroits un tout petit peu moins à l'aise par le registre, souvent un petit peu plus grave, mais dès qu'elle rentre dans le médium aigu, c'est absolument rayonnant, c'est toujours d'une grande clarté de diction, donc ça c'est extrêmement précieux, important pour la musique française en particulier, parce qu'il y a quand même toujours un style qui n'est pas évident d'attraper. Bon, je pense que globalement, toutes ces opérations défendues par la fondation Bruzane justement de proposer à des artistes français de chanter cette musique pour la faire revivre. Et donc oui, effectivement, j'ai beaucoup apprécié son chant, sa voix. Ça.
François Rougier, excellente diction aussi.
Oui.
Vous dites, parce que parfois on est déçu par la diction de musiciens français de chanteurs français dans de la musique
c'est
française.
C'est vrai, oui, et puis
là,
les voix d'hommes, c'est plus difficile d'être précis, oui, souvent, oui.
Alors, comme j'aime beaucoup la musique de Melbonis, je l'ai rappelé tout à l'heure, je vais vous proposer de réécouter Cléopâtre, une des pièces de son triptyque symphonique Femme de légende, jouée samedi à la Halograin par les musiciens de l'Orchestre national du Capitole. Cléopâtre, une des trois pièces de Femmes de légende, le triptyque symphonique de Melbonis, et Serge Kleshevski me faisait remarquer tout ce qu'il y avait de foréen dans cette œuvre. Prochain concert de l'Orchestre National du Capitole, jeudi 7 avril à 20h à la Halle au Grain, avec le DJ américain Jeff Mills. Nous allons vous en parler lors de l'agenda qui va suivre. Une courte virgule musicale et l'on se retrouve dans quelques secondes avec Serge Kleshevski et Robert Pénavert pour l'agenda de Mélomanie. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite.
Mélomanie. L'agenda.
Retour à l'antenne avec Serge Kleshevski, oboïste de l'Orchestre National du Capitole, chef de l'Orchestre en Harmonie, président du festival Musique au Palais, membre des Clés de Saint-Pierre, et avec Robert Pénavert, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, également chroniqueur pour les sites Culture 31 et Actu Toulouse, ainsi que pour les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi, pour ouvrir cette rubrique agenda, un récital au Théâtre du Capitole que tous les amateurs de bel canto attendaient avec impatience, programmé ce jeudi 7 avril à 20h, celui des ténors Lawrence Brownlee et Levi Segapan, accompagnés par le pianiste Giulio Zappa, dans un programme d'air et de duo d'opéra de Rossini, Bellini, Verdi et Donizetti. Malheureusement, nous avons appris hier que ce récital était reporté au 9 mai. Il semble que Lawrence Brownlee soit souffrant. Cela étant, nous allons tout de même vous le présenter comme c'était prévu parce que ce sont deux chanteurs très en vue sur la scène internationale. Et bien sûr, c'est Robert Pénavert qui va se charger de nous dire pourquoi il s'agit d'un duo et d'une soirée à ne surtout pas rater.
Voilà, exactement. Donc, on vous le dit bien à l'avance. Je peux vous dire qu'il reste des places encore, mais je pense que ça ne va pas durer très très longtemps. Donc, précipitez-vous parce que c'est vraiment un récital qui vient d'être donné par ailleurs hein, et qui a à chaque fois recueilli un immense succès. Alors, d'abord, vous présentez les interprètes, évidemment. Hein. Donc, Lawrence Brownlee est un ténor américain qui fait une carrière internationale absolument somptueuse. Alors, simplement vous dire que, avant de venir à Toulouse, s'il était venu à la date prévue, il vient de chanter Cenerentola à Vienne et l'Italienne Alger à Zurich. Et après Toulouse, il partira à Rome pour chanter Les Puritains. Ensuite, alors ça c'est plus étonnant, il fait un passage à l'Opéra de Paris pour chanter le rôle titre de Platée. Ça, c'est pas
un rôle. On l'imagine pas là-dedans.
Non, pas du tout, mais bon, voilà. Et ensuite, je vous le dis si vous ne le savez pas, mais en 2023, il chantera Tamino au Festival d'Aix-en-Provence sous la direction de Nathalie Stutzmann dans une nouvelle production. Et il ne vient pas seul. Cette tournée, il l'a fait avec. Avec un de ses cadets en la matière, quand même, qui a 20 ans de moins que lui. C'est un ténor sud-africain, un jeune ténor sud-africain, puisqu'il a 31 ans, hein, qui lui aussi est un ténor, un pur belcantiste, puisque, donc, avant de venir à Toulouse, il chantait Cenerentola à Los Angeles, et également, il chantait en Suède le Barbier de Séville, voilà, à Malmö, donc Alma Viva, évidemment. Et après Toulouse, il partira à Hambourg pour chanter Don Pasquale et à Berlin pour chanter Idreno dans Semiramide de Rossini. Donc c'est dire que ce sont deux interprètes très spécifiques pour le répertoire purement belcantiste. Ils n'en sortent pas trop, à vrai dire. Hein. Mais voilà, mais pourquoi ils en sortiraient alors qu'ils sont excellents et quasiment, je parle de Lawrence Brownlee plus particulièrement, inégalables aujourd'hui dans ce répertoire-là. Et donc, ils viennent dans un répertoire, comme l'avait dit Eric très justement, un répertoire d'air et de duo. Alors, dans les répertoires d'air, vous savez que traditionnellement, dans ces programmes de récital, la première partie est plus ou moins dévolu à ce que nous avait pas fait Marie-Pierre Bost, d'ailleurs. Souvenez-vous à ce midi du Capitole absolument explosif, voire sulfureux sur la fin. Elle avait démarré par 4 airs d'opéra et elle avait terminé par des chansons. Nous l'avons évoqué à ce micro. Eux vont, plus traditionnellement, démarrer par des mélodies signées Rossini, Donizetti, Verdi, Bellini. Et ils vont terminer la première partie, alors là, pour le coup, par un grand duo de ténors, extrait d'un opéra de Rossini qui s'appelle Ricciardo et Zoraïde, où ils chanteront ensemble, donc Agorante et Ricciardo. Voilà pour la première partie. La deuxième partie, très clairement, attention, il faut prendre sa bouteille d'oxygène parce qu'on part sur des sommets himalayenne littéralement, de si naturel contre du dièse contre ré et tout ce que vous voulez, puisque ça va être absolument pyrotechnique. Mais je sais, pour avoir eu des échos de leurs précédentes prestations,
que
voilà, ils cherchent également, malgré le peu de temps qu'ils ont, à incarner les personnages. Voilà. Et donc, nous allons avoir un extrait de Linda de Chamounix, de Donizetti. C'est le jeune ténor Lévi Xagapane qui le fera. Puis ensuite, Laurence Brunlis s'attaquera, et ce n'est pas rien, au grand air de Gualtiero du pirate de Bellini. J'imagine qu'il y aura la cabalette qui suit. Ensuite, Xagapane revient pour le Turc en Italie, l'air de Narciso, de Rossini bien évidemment. Ensuite, c'est Brunlis qui prend la succession avec un air de L'Occasione fa il ladro. Il chante l'air d'Alberto. Alors là, vous voyez, ce sont des, quand même, c'est du grand répertoire italien, mais peut-être très connu en Italie, mais pas forcément chez nous. Linda de Chamounix, je suis pas très sûr que ça ait jamais été donné au tas du Capitole. Le pirate, c'est presque sûr que ça n'a jamais été donné. Le Turc en Italie, si ça a été fait. L'Occasione fa il ladro aussi. Mais en fait, c'est pas le Barbier de Séville, c'est pas Cenerentola, c'est pas des airs très très connus, mais ce sont des airs magnifiques. Et il termine par le Tombeau des ténors, hein, puisqu'il en faut plusieurs de très très haut niveau pour chanter cet opéra de Rossini qui est Otello. Donc ils chanteront le grand duo Rodrigo-Otello, parce que Rodrigo, dans, contrairement à l'opéra de Verdi, Rodrigo dans l'opéra de Rossini a un rôle très important. Voilà. Alors là, ça va être le duel, ça va être la battle des contre
oui,
et des contre eux. Mais bon, ma foi, l'opéra, c'est ça également. Hein. Bon, voilà, très clairement. D'autant que n'oublions pas, c'est du Rossini quand même.
Oui,
c'est
et puis on les attend un peu pour ça aussi. Je pense qu'il y a des gens qui vont y aller pour voir justement
Mais bien sûr, et ce
duel,
n'est pas...
duel, si ce n'est cette battle, ce duel, en tout cas, de grand ténor.
Voilà, de grand ténor.
Des airs de haute virtuosité.
Voilà. Mais c'est fait pour faire plaisir à l'oreille.
Exactement.
C'est parfait pour se prendre la tête.
On sait pourquoi on y va.
On sait pourquoi on y va et nous n'allons pas être déçus vraiment. Si vous n'avez pas pris vos billets encore, il en reste, profitez-en. Puisque c'est reporté dans un mois.
Exactement.
C'est reporté dans un mois.
Ce sera un lundi. Il n'existe pas encore à ce jour d'enregistrement de ce duo, mais je peux vous faire entendre Laurence Brunlis dans une interprétation d'un des airs programmés au Théâtre du Capitole. Le ténor américain ayant déjà de nombreux enregistrements de CD d'airs de bel canto à son actif, on l'écoute ici chanter La Ricordanza de Vincenzo Bellini. Thank you.
spalla manca.
La Ricordanza de Vincenzo Bellini, chantée par Lawrence Brownlee, un des airs au programme du récital qu'il va donner avec Levi Segapane au Théâtre du Capitole. Je rappelle donc que les deux ténors vont se produire non pas le 7 avril, mais lundi 9 mai à 20h. Ce report fait que la prochaine échéance au Théâtre du Capitole va être Yenoufa, l'opéra de Leo Janáček, dont 4 représentations sont prévues du 20 au 26 avril, dans la mise en scène de Nicolas Joël. Nous allons vous présenter cette production dans 2 semaines avec Robert Pénavert, mais je vais profiter de la présence de Serge Krichevski pour dire quelques mots sur l'œuvre elle-même et notamment sa partition, parce que Serge, la musique de Leo Janáček et son opéra Yenoufa vous sont particulièrement chers.
Oui, alors en quelques mots, je citerai voilà, Piotr Kaminski, un grand monographiste de...
qu'on entend souvent à la tribune des critiques de disques sur France
Musique. Qui a écrit une somme sur l'opéra. Voilà. On ne dira jamais assez l'excellence humaine et dramatique du scénario de Yenoufa et la force concentrée avec laquelle Janáček réalisa toutes ses potentialités. Alors, c'est d'une certaine manière, c'est du bel canto, un peu plus moderne, hein, mais on prolonge Donizetti, Bellini, dans la langue tchèque, qui est particulière, mais un compositeur extrêmement inventif, personnel, humain, dans des formats assez courts, hein, des opéras qui durent même pas 2 heures, 1h30, 1h40, à ne pas manquer. Vous avez 4 représentations, profitez-en.
Voilà, 20, 26 avril, et bien sûr, on vous le présentera plus en détail avec Robert Pénavert dans 1 ou 2 semaines. Il y a d'autres concerts, toujours ce jeudi 7 avril, décidément, et je tenais à vous annoncer celui du duo formé par la flûtiste Sandrine Tilly et la pianiste Anne Le Bozec. C'est à 20h30 à l'espace Palumbo de Saint-Jean, dans le cadre de la saison organisée par l'association Gabriel Fauré. Si vous suivez régulièrement cette émission, vous vous rappelez sans doute que nous avions reçu Sandrine Tilly, qui est également la flûtiste solo de l'Orchestre National du Capitole, à l'occasion de la parution du CD de Sonate Russe, qu'elle a enregistré avec son amie Anne Le Bozec sous le label Maglone, CD où l'on trouve, outre la sonate pour flûte et piano de Prokofiev, celle d'Edison Denisov, de Paul Louon et de Yuri Kornakov. Seulement une de ses œuvres est au programme du concert du 7 avril, la sonate de Prokofiev. Les deux musiciennes y ont associé des sonates de Mozart, Poulenc et Bartok. Serge Krichevski, Sandrine Tilly est votre camarade au sein de l'Orchestre du Capitole depuis longtemps maintenant. Vous connaissez bien aussi Anne Le Bozec. Ce sont 2 excellentes musiciennes qui forment un duo depuis un bon quart de siècle.
Oui, elles sont amies.
Et vous avez eu l'occasion d'écouter en concert, même de jouer avec Anne Le Bozec.
Oui, on a fait pas mal de musique française à une époque. On a redécouvert la musique d'Aimé Quinque, notamment, bon, qui plaît à certains. Bon, c'est un duo fusionnel, hein, on va dire, depuis toujours, les bancs de l'école. Elles continuent. Et puis Anne Le Bozec, je pense, est particulièrement appréciée au Théâtre du Capitole, donc on peut l'entendre régulièrement là-bas, sur la scène.
Et vous connaissez les sonates qu'elle va interpréter là, pour Poulenc?
Alors la sonate de Prokofiev a été écrite aussi pour violon. Je pense que Prokofiev l'a peut-être un petit peu retouchée. C'est une sorte de réécriture, mais avec peu de changements. Très belle œuvre, hein, vraiment très lyrique. La sonate de Poulenc, qui est très célèbre aussi, hein, créée par Jean-Pierre Rampal. Elle appartient à cette série de sonates écrites par Poulenc à la fin de sa vie pour les instruments avant, comme avait fait d'ailleurs déjà Saint-Saëns, hein, à la fin de sa vie. Donc il y a une sonate pour flûte au bois, clarinette, magnifique. Donc celle pour flûte est très belle. Il y a un mouvement lent qui est particulièrement élégiaque et donc elles joueront également
une sonate de Bartok.
Alors Bartok,
que vous aimez beaucoup aussi.
Alors j'adore Bartok absolument, définitivement. C'est peut-être, alors là en l'occurrence, plutôt des arrangements soit de pièces pour violon, c'est possible, ou bien peut-être même d'une des sonates pour violon, mais ça, il y a une écriture quand même vraiment particulièrement violonistique. Alors je pense que c'est plutôt des pièces
transcrites. Voici un aperçu du programme que vont jouer Sandrine Tilly et Anne Le Bozec jeudi à l'espace Palumbo de Saint-Jean, un extrait de leur CD de sonate russe avec ici le premier mouvement moderato de la sonate pour flûte et piano opus 94 de Serge Prokofiev.
Thank you.
Le premier mouvement moderato de la sonate pour flûte et piano opus 94 de Serge Prokofiev, interprété par Sandrine Tilly et Anne Le Bozec, une des œuvres que l'on trouve sur leur CD de sonates russes paru sous le label Maglone, et une des sonates au programme de leur concert donné ce jeudi 7 avril à 20h30 à l'espace Palumbo de Saint-Jean, un concert organisé par l'association Gabriel Fauré. Il y aura donc aussi des sonates de Mozart, Poulenc et Bartok. Encore un concert jeudi 7 avril à 20h à l'Allograin, celui de l'Orchestre National du Capitole, avec Jeff Mills. C'est un grand nom de la musique techno, pour ceux qui connaissent, c'est une figure internationale dans ce domaine. Ce concert électro-symphonique a été intitulé Planets, et il vient prolonger une série commencée il y a quelques années avec le célèbre DJ américain. Il me semble que la première avait eu lieu en 2016, à l'Allograin, transformé l'espace d'une soirée en gigantesque boîte de nuit. Serge Krzyzewski, je crois que vous n'allez pas participer au concert du 7 avril, mais qu'est-ce que ça vous inspire, ce mélange des genres entre orchestre symphonique et musique techno?
Je passerai volontiers la parole à Robert, mais non, très sincèrement, je n'ai pas grand-chose malheureusement à dire de ce registre que je connais tellement mal. Hein, je dirais que bon, voilà, c'est sûr que les musiques qui sortent du registre classique et du répertoire habituel des grands orchestres symphoniques sont de plus en plus fréquemment programmées. Alors on a le plaisir de faire souvent de la musique de film maintenant. Voilà, il y a d'autres veines à exploiter. Celle-ci en est une. Je pense que le public s'y retrouve. Hein,
c'est plein à chaque fois, ça. Je peux le confirmer. Hein. Mais vous, j'ai l'impression que vous avez volontiers passé votre tour. Vous n'avez pas été le premier à lever la main.
Et ça tombait bien parce que j'avais d'autres. Je préférais me concentrer sur Leo Janáček, par exemple.
Par exemple. Vous, Robert, qu'est-ce que vous en pensez de ce mélange des genres? Là, c'est vraiment un mélange des genres très opposé.
C'est presque une sortie de piste, là.
Eric, là, vous me gênez un peu sans le vouloir, parce qu'en fait, il aurait fallu poser la question à Serge Chosy, qui lui ne rate jamais un de ses concerts. D'accord. Et moi, je n'en ai jamais vu un. Voilà.
Ouais, mais Serge Chosy est un pilier de boîte de nuit.
Je suis absolument incapable de vous dire un mot là-dessus. Sauf que peut-être, j'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup de monde.
Ah oui, oui.
Et peut-être des gens qui ont devant eux un orchestre symphonique. En fait, Serge, je ne me trompe pas,
oui.
C'est un orchestre.
Ah oui, absolument.
C'est vraiment
absolument. C'est en fait une musique qui a été suggérée, on va dire, écrite rapidement par Jeff Mills et qui a été élaboré, orchestré par un collègue, un assistant, je pense.
C'est Christophe Mangou qui dirige ces orchestres.
Et donc, ces personnes vont passer la porte de l'Allograin.
Oui.
Qui les intimide malheureusement toujours autant. Ils vont se trouver devant un orchestre symphonique. Peut-être qu'ils vont se dire « Ah bon, c'est bien ça finalement, même en dehors de Jeff Mills, pourquoi on ne reviendrait pas ?»
Ils vont peut-être tourner la page de la brochure.
Ils vont la prendre au passage,
raison,
ils vont prendre le programme de la saison de l'orchestre.
C'est un moment.
Et puis effectivement, ça permet peut-être un petit peu de démystifier ce lieu-là, l'Allograin, où vu de l'extérieur, c'est vrai, ça ne donne pas forcément envie d'y entrer. Ça a l'air assez fermé. Alors pour se mettre dans l'ambiance de cette soirée du 7 avril, voici un extrait de celle qui avait eu lieu en mai 2016. Jeff Mills et l'Orchestre National du Capitole sous les lasers à l'Allograin. Kef Mills et l'Orchestre National du Capitole lors du concert de mai 2016 à la Halle au Grain, et vous allez pouvoir retrouver les mêmes au même endroit ce jeudi 7 avril à 20h lors d'une soirée et un programme intitulé Planets. Si vous êtes intéressé, je vous invite à réserver et acheter vos places sans plus tarder sur le site web de l'orchestre www.onct.toulouse.fr. C'est la fin de cette émission à laquelle je remercie chaleureusement Serge Krichewski et Robert Pénavert d'avoir participé en l'agrémentant de toutes leurs grandes connaissances. Je rappelle le concert du duo formé par la flûtiste Sandrine Tilly et la pianiste Anne Bozek, également ce jeudi 7 avril à 20h30 à l'espace Palumbo de Saint-Jean, pour le compte de la saison organisée par l'association Gabriel Forêt. Elles vont y donner un programme de sonates pour flûte et piano de Prokofiev, Mozart, Poulenc et Bartok. Les réservations et la billetterie sont en ligne à l'adresse www.gabrielforêt.festic.net. Et je signale enfin le concert Musique pour la paix, samedi 9 avril à 20h à l'église du Jésus à Toulouse. Il est organisé conjointement par les associations résidentes en ce lieu, à savoir l'ensemble Antiphona, les Arts Renaissants, l'ensemble Baroque de Toulouse, les Sacs-Boutiers et Toulouse les Orgues. Tous les fonds récoltés au cours de cette soirée seront reversés à la Croix-Rouge au profit de l'Ukraine et des Ukrainiens. On va y entendre entre autres des œuvres de Telemann, Couperin, Castello, Merula et Jean-Sébastien Bach. Les renseignements sont disponibles à l'adresse www.helloasso.com en tapant la recherche concert à Toulouse. Tous mes remerciements à Yannick Galupini pour la réalisation de cette émission, dont le podcast est disponible, téléchargeable dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les mardis à 19h et les mercredis à midi. Merci encore de votre écoute fidèle et excellente semaine musicale à tous.